gaat.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous retrouver pour Culture Média, au menu tous les médias, du papier noir et blanc à YouTube et toutes les formes de culture. Tiens, exemple aujourd'hui, vous allez découvrir comment et pourquoi le jeu vidéo Fortnite, l'un des plus gros succès planétaires, vient de s'associer au Château de la Loire. Vous retrouverez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu, Bertrand Chameroy pour son écran de veille, Eva Rock pour le zapping de lendemain et Charles Decan qui est déjà dans ce studio pour son journal des médias. L'infomédia du jour, justement, le traitement quasi microscopique de l'information européenne sur les antennes françaises, moins de 2% des infos alors que c'est un sujet crucial. Nous serons avec Nora Amadi, présentatrice de Vox Pop sur Arte, et Véronique Auger, elle est présidente de l'Association des journalistes européens. Le magazine Elle célèbre ses 75 ans avec la sortie d'un numéro événement demain vendredi et la publication d'un beau livre Elle, 75 ans de photographie de mode. Nous serons avec la directrice de la rédaction Erin Doherty et Marion Ruggieri, éditorialiste à l'hebdomadaire. Et puis la presse féminine, ça permet également de s'en moquer. Hasard de l'actualité, nous recevrons la youtubeuse Natou qui publie son deuxième livre qui parodie justement ces magazines. Ça s'appelle Icône 2. Icône avec deux N comme dans Je le dis pas. Et deux parce que le premier tome avait cartonné. Vous comprendrez pourquoi. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decan.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias, le sommaire du jour.
Les coulisses médias d'un geste fort, les dessous des services publics, une interview inattendue et une première, une grande première pour la France.
Quel sommaire ? On commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ?
Et ben la course a été très serrée, 20 000 téléspectateurs d'écart seulement entre les deux premiers. Ouais, c'est M6 qui s'impose avec Le Meilleur Pâtissier saison 9, avec Mercotte à distance, vous en parliez hier Philippe. 3 200 000 téléspectateurs et 15,6% de part d'audience et surtout 29% sur les femmes de moins de 50 ans.
Leur cible.
Voilà, France 2 est juste derrière, donc avec un téléfilm inédit, Le Diable au corps avec Zabou Bretman, au compteur 3 200 000 téléspectateurs aussi et 13,5% de part d'audience. Enfin, TF1 est troisième et pas loin non plus, avec la suite de sa série médicale New Amsterdam saison 2, 3 millions de personnes, soit 13% de part d'audience et 23% des femmes de moins de 50 ans.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias avec les coulisses de la diffusion très mouvementée du dernier match du PSG.
Oui, c'était en Ligue des Champions mardi soir. Les Parisiens affrontaient un club d'Istanbul, mais le match a été interrompu dès la 13e minute à cause d'un comportement à caractère raciste de l'un des arbitres. La situation était totalement inédite. Les joueurs des deux équipes ont quitté le terrain et le match n'a repris qu'hier à 18h55 à la demande de RMC Sport. C'est la chaîne qui diffusait la rencontre et qui était en charge de la production. C'est ce que nous a révélé le directeur des rédactions de RMC Sport, Rodolphe Masset.
C'est nous, RMC Sport, qui avons demandé à ce que le match soit reprogrammé à 18h55, puisqu'à 21h hier soir, il y avait aussi l'Olympique de Marseille qui jouait à City. Donc on a préféré que ce soit à 18h55. Et là, ça a été une course contre la montre pour les équipes de production dirigées par Luc Panier, parce que dans la nuit de mardi à mercredi, ils ont très peu dormi. Puisque donc, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un match de Ligue des Champions que l'on produit, nous, RMC Sport, on produit aussi le signal pour l'ensemble des diffuseurs. Du coup, ça veut dire une centaine de personnes entre la production du match et notre plateau privatif. Et évidemment, sur ces 100 personnes, il y en a qui n'étaient pas disponibles le mercredi puisqu'elles étaient déjà bookées pour d'autres événements le mercredi soir. Donc là, les équipes de prod ont travaillé d'arrache-pied toute la nuit pour caler le dispositif de production pour qu'il soit opérationnel hier.
La chaîne avait délocalisé son plateau au Parc des Princes, qui lui a permis d'être au plus près des événements, mais qui a eu un coût. Un coup qui s'est alourdi puisqu'il a fallu rester sur place hier et produire la deuxième partie du match.
Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une double production. C'est-à-dire qu'on n'a pas payé 100 mardi soir et de nouveau 100 mercredi puisqu'il y avait déjà toutes les installations techniques qui avaient été faites. Donc on n'est pas à un double coût. Le surcoût, on est en attente de le chiffrer, mais c'est quand même un surcoût important. Et après, évidemment, pour le moment, c'est quelque chose qui n'était prévu dans aucun texte de l'UEFA. Il va y avoir des discussions pour savoir si l'UEFA va participer à la prise en charge d'une partie des coûts. Là, je ne peux pas m'avancer parce que franchement, les discussions n'ont pas eu lieu.
Le PSG a gagné 5-1, on n'a pas donné le score. De toute façon, ils étaient déjà qualifiés. Et les huitièmes de finale, ça c'est l'infomédia, ça sera aussi sur RMC Sport. Football et médias encore, avec une journée importante dans le feuilleton Média Pro.
Ce matin, c'est l'heure des premières conclusions pour Marc Sénéchal. C'est lui que le tribunal de commerce de Nanterre a nommé pour arbitrer le litige entre Média Pro et la Ligue de football professionnel. Lors du conseil d'administration de la Ligue, Marc Sénéchal va évoquer la seule option viable pour une sortie de crise, selon l'équipe, récupérer les droits cédés à Média Pro. euros. Une solution qui entraînerait la fermeture de la chaîne Téléfoot, distribuée par les fournisseurs d'accès et que Mediapro devrait donc dédommager. C'est cette équation qui doit être résolue avant que Canal+ ne puisse officiellement entamer des négociations pour reprendre les droits et venir au secours de la Ligue.
Le focus programme du jour, c'est le retour de Cash Investigation sur France 2 avec une enquête sur le service public.
L'équipe d'Élise Lucet s'intéresse ce soir au premier employeur en France, l'État. Il est partout, à l'hôpital, à Pôle emploi, dans les caves, dans les préfectures. Comment fonctionnent ces entités pilotées par l'État alors qu'une politique d'économie budgétaire est menée depuis de longues années ? France 2, qui est au passage aussi une entreprise contrôlée par l'État, promet de montrer la réalité des services publics, bien loin des clichés de stabilité de l'emploi, de jobs tranquilles et de salaires garantis. Pour parvenir à ces révélations, la journaliste Marie Maurice s'est notamment fait embaucher dans un service de nettoyage auquel certains hôpitaux publics sous-traitent leur entretien, une enquête réalisée avant la crise du Covid. Cash Investigation s'est également infiltré à Pôle emploi et dans des préfectures où des jeunes en service civique remplacent parfois des agents publics. Et le diagnostic est le même dans ces différentes entités, comme l'a expliqué Marie Maurice à Louise Bernard.
Il y a un certain nombre d'alertes qui remontent sur le fait que les missions de service public qui sont finalement prises en charge par les employés, des sous-traitants ou par ces volontaires en service civique, la qualité de ces missions de service public les inquiète, eux, en tout cas, au premier chef. Ils ont tous un point commun, c'est de ne pas avoir le sentiment soit de rendre suffisamment ce service public aux usagers, soit de ne pas avoir les moyens de faire leur travail correctement, ou à l'inverse, par exemple, pour les volontaires du service civique, eux ont le sentiment, en fait, que la mission qu'on leur confie déborde les prérogatives d'un service civique.
Service public, liberté, égalité, rentabilité, point d'interrogation. Nouveau document de Cash Investigation ce soir à 21h05 sur France 2.
Une interview inattendue donnée au magazine Forbes. Forbes, magazine connu pour son classement des plus grosses fortunes mondiales.
Oui, c'est l'interview de François Hollande, inattendue parce que le magazine économique n'est pas forcément le média dans lequel on attendrait l'ancien président de la République. François Hollande y évoque longuement l'un des grands chantiers de son quinquennat, l'économie sociale et solidaire. Mais il est aussi interrogé sur les mots très durs qu'il avait eus sur le monde de la finance lors de sa campagne présidentielle de 2012. 8 ans plus tard, il s'en explique dans cet entretien, comme l'a révélé le rédacteur en chef du magazine qui a réalisé l'interview, Yves Deray.
Alors je crois quand même qu'il avait dû évoquer ce sujet-là rapidement, comme cela au débotté, parce qu'on lui avait demandé une explication de texte. Mais là, disons que dans Forbes, il savait qu'il allait en parler. Moi, je l'avais d'ailleurs pas caché à son chargé de communication. Évidemment, puisque c'était Forbes, c'est un journal qui fait le classement des milliardaires, le classement des grandes fortunes, qui évoque parfois des sujets purement financiers. On a une section du magazine consacrée à la finance, donc c'était assez évident qu'on allait évoquer ces sujets-là.
Voilà, François Hollande explique qu'il n'a rien contre les banques à partir du moment où elles permettent de soutenir les entreprises et les particuliers qui font tourner l'économie réelle, ce qu'il dénonçait à l'époque et qu'il dénonce toujours. Ce sont les pratiques spéculatives outrancières ou le recours aux paradis fiscaux, par exemple. Le nouveau numéro de Forbes consacré au luxe et à la philanthropie, est dans les kiosques depuis ce matin.
La France va organiser l'Eurovision Junior l'année prochaine. Est-ce que vous imaginez ?
Moi j'imagine, vous avez reconnu la chanson de Valentina, c'est elle qui a remporté l'Eurovision Junior il y a 10 jours et grâce à elle, la prochaine édition du concours aura lieu en France pour la première fois. C'est la tradition, le pays qui remporte l'Eurovision accueille l'édition suivante, mais ce n'est pas automatique. Hier, France Télévisions a confirmé son intention d'organiser l'Eurovision Junior 2021. Pour l'instant, on ignore quelle ville accueillera le concours et à quelle date il sera organisé.
Ouah putain, Netflix prépare une nouvelle émission consacrée aux gros mots.
Et oui, pas de gros mots à l'antenne.
Non.
C'est l'acteur Nicolas Cage qui va présenter donc cette émission. Ça va s'appeler The History of Swear Words, en français l'histoire des gros mots. Netflix a commandé 6 épisodes
cours
desquels le comédien interrogera des historiens, des comédiens ou encore des experts en étymologie.
Et on a hâte de voir comment ils vont le traduire quand ça va passer en français. Et puis on termine ce journal avec un nouveau projet pour Mariah Carey.
Eh oui, j'ai trouvé un moyen de vous faire écouter du Mariah Carey ce matin.
Non mais c'est toujours le même titre en plus.
Ben oui, mais c'est bientôt Noël.
Ah oui,
on en mettra d'autres l'année prochaine si vous voulez. Mariah Carey a indiqué qu'elle avait entamé des discussions pour adapter son autobiographie qui était sortie en octobre dernier. Elle s'était hissée en tête des best-sellers aux États-Unis. Pour l'heure, on en est qu'au tout début des discussions. Le projet pourrait devenir une série ou un film et Mariah Carey elle-même pourrait passer dans la chaise du réalisateur, de la réalisatrice en l'occurrence.
Merci beaucoup Charles Decan. À demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour, on va s'intéresser au faible traitement, le mot est faible lui-même, de l'actualité européenne dans les médias français. On en parle avec la journaliste de l'émission Vox Pop sur Arte, Nora Hammadi, et la présidente de l'Association des journalistes européens, Véronique Auger. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
C'est ce matin que commence le dernier Conseil européen de l'année à Bruxelles, le seul rendez-vous presque à intéresser les grands médias français quand il s'agit de parler d'actualité européenne. Car pour le reste, à savoir le travail législatif des députés européens, le suivi du travail de la Commission entre autres, il n'y a plus grand monde. Un exemple, la première chaîne de France et même d'Europe, TF1, et un chiffre, seulement 1,4% des sujets traités dans ces journaux télé ont porté sur l'Europe il y a 2 ans. C'est 3 fois moins que la part consacrée à l'actualité américaine. Et TF1 n'est pas la seule. Les chaînes françaises préfèrent parler des États-Unis que de l'Union européenne, alors même que c'est elle, l'Europe, qui régit en partie nos vies quotidiennes. D'où le sujet du jour. Pourquoi un tel manque d'intérêt et comment y remédier? Nous allons poser ces questions à nos deux invités. Bonjour Nora Hammadi.
Bonjour Philippe.
Merci d'être ici en studio avec nous. Vous êtes journaliste. On va entendre le générique de votre émission. Vox Pop, le dimanche soir sur Arte. Évidemment, on peut le retrouver sur arte.tv en replay quand on veut. Magazine d'actualité et d'enquête sur l'Europe. En ligne avec nous, Véronique Auger, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes la présidente de l'Association des journalistes européens. Vous avez présenté pendant près de 15 ans l'émission Avenue de l'Europe sur France 3.
Voilà.
Générique. Véronique Auger, ça vous rappelle de bons souvenirs
Oui.
Oui.
Oui, ça me rappelle de très bons souvenirs.
Pourquoi l'émission a-t-elle disparu il y a 1 an et demi?
Alors, elle n'a pas disparu, elle s'est transformée en une émission qui s'appelle « Nous les Européens » qui est présentée par Francis Letellier,
ouais.
Et qui passe le dimanche à l'heure de la messe. sauf que, bon, elle est hebdomadaire, mais elle est 3 fois plus petite et à un horaire très compliqué.
Ouais.
Et déjà, Avenue de l'Europe était un horaire très, très compliqué puisque c'était après le soir 3 et que le soir 3 était de plus en plus tard. Et donc, c'est typique de la bataille que ceux qui veulent parler d'Europe dans les journaux mènent en permanence dans les chaînes de télé notamment.
Ouais, alors
mais
de
pas
la,
que.
À l'heure de la messe et de téléfoot et d'automoto, on sent que ça ne vous fait pas très plaisir. Pour bien comprendre le sujet dont nous parlons, je voudrais commencer par revenir sur un événement très parlant. C'était il y a 3 mois, le 16 septembre, la nouvelle présidente de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, prononçait à Bruxelles un discours très important.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, l'un des esprits les plus courageux de notre époque, Andrei Sakharov, un homme tant admiré par ce Parlement, parlait toujours de sa foi inébranlable dans la force cachée de l'esprit humain. Au cours de ces 6 derniers mois, les Européens ont fait preuve de toute cette force. Nous l'avons vu avec les soignants, avec les médecins et les infirmières et avec tous les travailleurs de première ligne qui, jour et nuit, semaine après semaine, ont pris des risques pour nous tous. Leur empathie, leur courage et leur sens du devoir nous inspirent. Et je voudrais commencer ce discours en leur rendant hommage.
C'était le début du discours annuel sur l'état de l'Union européenne, une sorte de discours de politique générale, rendez-vous politique majeur et en français s'il vous plaît. Et pourtant, aucune chaîne de télé française ne l'a retransmis. Pire, plusieurs grands JT ne s'en sont même pas fait l'écho. Il n'y a rien eu dans les 13 heures de TF1 ni de France 2, rien non plus dans le 20h de TF1. Comment vous avez réagi, Nora Hammadi, quand vous avez fait ce constat?
Bah écoutez, ce constat n'est pas nouveau, Philippe. De fait, moi, ça fait 15 années que je travaille sur les questions européennes et le déficit de traitement de l'actualité européenne n'est pas neuf. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Là, ce qui est dramatique, c'est qu'effectivement, en ces temps de crise sanitaire où, souvenez-vous, au mois de mars, tout le monde s'est retourné sur l'Union européenne en disant « Mais que fait l'Europe ?» Et bah, de fait, on s'attendait à ce qu'il y ait une forme de rebond, enfin de regain d'intérêt pour ces institutions européennes qui, de fait, aujourd'hui, et on le voit bien aussi sur la politique des vaccins, est en première ligne dans la gestion des crises successives qu'on a connues depuis 15 années. Donc, je dirais qu'il n'y a rien d'étonnant, mais ça finit par devenir lassant.
Même question à vous, Véronique Auger. Vous êtes non étonnée, vous êtes lassée?
Ah, c'est pire. Là, j'étais vraiment en colère parce que j'ai écouté le discours. Il y avait toute la politique européenne pour tout ce qui va concerner le numérique, le digital, le Green Deal, c'est-à-dire l'environnement, c'est-à-dire la vie de tout le monde, en particulier des Français dans les années qui viennent, qui diront, évidemment, ah ben on ne savait pas. On ne savait pas que l'Europe, par exemple, a décidé qu'il y aurait la 5G. Et aujourd'hui, on voit que la France est sur ce chemin. Donc, moi, j'étais vraiment en colère parce que je ne comprends pas comment une toute info, ouais, à 9h du matin, n'a pas le temps et, je dirais même le culot, diffuser ce discours qui était traduit en français, parce que vous avez passé un passage en français, mais beaucoup étaient en anglais.
Ouais.
C'est vrai que ça, c'est un véritable problème, parce que les documents sont la plupart du temps en anglais et leur communication à la Commission européenne est en anglais, donc pour les Français, c'est un peu compliqué. Mais je ne comprends pas comment on n'a pas pu diffuser ça. Alors, franchement, c'est pas un horaire de grande audience.
Alors, vous avez réagi, Véronique Auger. Deux associations, dont celle des journalistes européens et le mouvement européen, France, ont publié une tribune il y a un mois et demi dans Les Échos, texte que vous avez signé toutes les deux. Mmh. Il y a des propositions, on va y venir, mais aussi d'autres exemples d'un traitement de l'actualité européenne que vous jugez superficiel, insuffisant. Lesquels ?
Vous parlez de quoi? De traitement de
oui.
Il n'y a pas que ce discours-là. C'est vrai que la plupart du temps, sauf quand il y a une crise, mais finalement, on couvre au moment de la crise. Mais comme on n'a pas parlé avant de comment on en était arrivé là, les gens ne comprennent pas.
Oui, il faut avoir le contexte pour suivre une actu, bien sûr.
C'est ça. Et les gens ne peuvent pas comprendre quand tout d'un coup, par exemple, là, on va leur dire qu'il y a une urgence sur le Brexit ou qu'il y a une urgence. Qui a parlé, par exemple, du respect de l'état de droit en Pologne et en Hongrie, qui sera la condition, qui pourrait être la condition sine qua non du versement de l'argent pour le plan de relance organisé par l'Union européenne? Qui en a parlé? Je crois que pas grand monde.
Ah, ça, j'ai pas la réponse.
Voilà. Et si demain, la Hongrie ou la Pologne décident, par exemple, de claquer la porte de l'Union européenne, mais beaucoup de Français vont dire « Ah bon, il y a eu un problème avec la Pologne et avec la Hongrie ?»
Ouais. Si on en parle pas. Évidemment, mais là, on parle d'un sujet télé.
Oui, mais Europe 1 en parle beaucoup. Ah. Isabelle Horry, qui est votre correspondante à Bruxelles, fait un super travail, je voudrais le souligner. Europe 1 fait partie des radios qui en parlent le plus. Mais vos voisines, je dirais, et concurrentes, en parlent très peu.
On va parler de cas concrets, parce qu'il y a aussi d'autres raisons. Les JT, quand même, les chaînes d'info parlent de l'Europe, mais d'une manière particulière, avec des focus très précis. On continue à en parler avec vous, Véronique Auger et Nora Hammadi. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de la place extrêmement réduite des informations européennes sur les chaînes françaises. Nous sommes avec Véronique Auger, qui est présidente de l'Association des journalistes européens, et Nora Hammadi, présentatrice de Vox Pop sur Arte. C'est le dimanche à 20h05, justement, qui s'intéresse à l'Europe. Ce que vous soulignez, Nora Hammadi, c'est le décalage entre ce qu'apporte l'Union européenne à la France. 40 des 100 milliards d'euros du plan de relance, par exemple, c'est énorme. Et dites-vous, comme il est écrit dans cette tribune que vous avez signée, la place mineure accordée à ces réalisations communautaires. Ça a toujours été le cas, ça s'améliore, c'est pire qu'avant?
Non, je dirais ça s'améliore, mais merci la crise. Merci la crise, c'est-à-dire que depuis, alors l'Europe est une succession de crises, mais on voit que depuis la crise de 2008, les regards se tournent régulièrement, et je le disais, alors on est de plus en plus, nous, journalistes européens, sollicités en disant, non mais que fait l'Europe? Non mais pourquoi l'Europe, en fait, n'a pas... Alors écoutez, il va falloir faire un petit peu de pédagogie, l'Europe n'a pas la capacité d'agir sur tous les secteurs, c'est ce qu'on appelle en fait un principe de subsidiarité qui fait que soit c'est l'Europe qui travaille, soit c'est les États, soit c'est encore plus bas. Donc là, typiquement sur la crise sanitaire, on s'est retrouvé en fait à dire, mais que fait l'Europe? Pourquoi est-ce qu'on se vole des masques sur les tarmacs? Alors ça, c'est pas l'Europe en fait, c'est une compétence nationale, et ce sont les États en fait qui se sont fait la guéguerre entre eux et qui ont décidé de fermer les frontières sans se prévenir les uns les autres. Donc je dirais que depuis une quinzaine d'années, les choses s'améliorent, mais qui sont liées en fait à des pics de crise. La crise de 2008, la crise des dettes souveraines, la crise grecque, la crise migratoire, aujourd'hui la crise sanitaire, et le Brexit bien entendu, qui nous occupera encore aujourd'hui, vous voyez, au Conseil européen, et Van der Leyen et Boris Johnson ont dîné hier soir pour essayer de sortir de la crise et de trouver un deal.
Donc, là, ils en ont parlé, il paraît que c'est très très mal passé.
Ouais, exactement. Mais donc on voit en fait que sur ces moments de pic, on en parle un peu plus, Mais une fois qu'on est en base zoo, plus rien. Absolument rien.
Véronique Auger, vous dites que l'actualité européenne est peu traitée dans les médias français, mais quand même les journaux, les chaînes télé parlent régulièrement de ce qui se passe chez nos voisins. Hier, par exemple, j'ai vu sur toutes les chaînes, les grosses, les petites, même dans Quotidien ou dans C'est à vous, les larmes retenues par la chancelière Merkel. On parle de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, de Belgique, du Royaume-Uni. Mais vous dites que ce n'est pas ça l'actualité européenne. Quelle différence vous faites ?
Alors, il y a deux choses. Ça, c'est l'événementiel. C'est vrai que moi, j'ai vu le passage de Angela Merkel, c'était très émouvant. Et c'est en creux. Ce que cherchent à exprimer ceux qui diffusent ça, c'est que notre président de la République ne manifeste pas la même sentimentalité. Donc, il y a toujours une référence à ce qui touche la France dans les passages autour de l'Europe. En tout cas, c'est ce que je note. Non, c'est pas ça. Je pense que il y a énormément d'événements qui se passent à Bruxelles, mais ça oblige, c'est vrai, à avoir un certain travail. Vu qu'on va de plus en plus vite dans les médias français, et pas seulement, le travail, on n'a pas le temps de le faire.
Vous voulez dire que le temps qu'on contextualise l'information, on n'a pas le temps de donner la nouveauté?
Déjà, oui, alors il y a ça, c'est vrai, il faut remettre dans un contexte, et ça prend du temps à l'antenne, et on n'a pas beaucoup de temps à l'antenne, mais en amont, ça prend aussi du temps de comprendre ce qui va être important pour les Français dans la masse d'informations qu'on reçoit de la Commission européenne notamment. Ouais. Et ça demande un travail énorme. Or, ça vous le savez, d'abord on doit aller de plus en plus vite. Il y a de moins en moins de journalistes pour faire la même chose qu'avant de plus en plus vite. Ça, c'est un problème, mais qui est un problème plus large. Je pense aussi qu'il y a un vrai problème de formation des journalistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les écoles de journalistes, il n'y a pas de formation à l'Europe. On ne fait plus d'anglais dans la plupart des écoles de journalistes. Donc, ce sont quand même deux gros handicaps pour les jeunes journalistes quand ils arrivent sur le marché du travail.
Sauf à l'école de Strasbourg, me souffle mon rédac-chef. Antoine Janton, vous vouliez dire quelque chose, Nora Amadi.
Oui, pour aller dans le même sens que ce que vient de dire Véronique. Nous, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a, entre Paris et Bruxelles, en France, on estime qu'il y a entre 60 et 80 journalistes qui travaillent spécifiquement sur ces questions, y compris... Non, c'est très peu. C'est très peu. Imaginez, en fait, par exemple, si vous aviez entre 60 et 80 journalistes en France qui travaillaient sur les questions étrangères ou qui travaillaient sur la diplomatie. Donc en fait, en ratio par rapport à la manière dont l'Europe produit de la norme qui en fait nous touche tous les jours, je vous rappelle que par exemple, souvenons-nous des débats qu'on a eu sur le glyphosate, des débats qu'on a eu sur les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles, ça c'est typiquement de la norme européenne qui est produite et qui fait débat jusqu'au plus près de nous. Mais là-dedans, quand on n'a pas assez de journalistes formés sur ces questions, on en arrive, souvenez-vous en fait, de la campagne de vaccination qui a démarré ce mardi en Angleterre. Ouais. On en arrive en fait à dire que c'est grâce au Brexit que Boris Johnson a pu mettre en place ce vaccin.
Alors, c'est ce que j'ai entendu sur toutes les chaînes.
Et c'est absolument faux. C'est une erreur factuelle.
Parce qu'il pouvait s'affranchir des règles européennes. Voici ce qu'on nous a dit.
Absolument pas.
Dingue.
Et les Anglais ne sont pas sortis de l'Union européenne. Le Brexit, c'est le 31 décembre. Donc là, ce que Boris Johnson a fait, c'est qu'il a utilisé une directive de 2001 qui lui permet, en fait, de faire valoir sa propre agence de santé pour des cas d'urgence. Et ça, tout le monde aurait pu le faire. Sauf que les 27 ont décidé de passer par l'Agence européenne du médicament. Et lui, ça n'a pas été le cas. Donc, on a entendu des jours durant une idée absolument fausse. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de spécialistes dans les rédactions.
Véronique Auger, on revient à la tribune. Quelle solution proposez-vous ? Vous avez interpellé le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et celui de la culture. Oui. Comment peut-on changer ça en quelques mots ? Si tant est que soit possible de le dire en quelques mots.
Alors, on peut le changer grâce au CSA, qui peut faire ce qu'il a fait, notamment pour qu'il y ait plus de diversité dans les antennes publiques, déjà. C'est-à-dire qu'il signe une charte avec France Télévisions, avec Radio France, afin qu'il y ait plus d'Europe dans les journaux, avec des critères très précis. Ça peut être un des premiers points, mais il peut y en avoir d'autres. Alors, on a enfin reçu une réponse de Clément Beaune, qui est le secrétaire d'État en charge des affaires culturelles, des affaires européennes, hier soir, qui nous propose justement d'y réfléchir ensemble. Enfin, on a attendu un mois et demi et on n'a pas eu de réponse de Roselyne Bachelot, qui est ministre de la Culture, qui est le ministre de tutelle de l'audiovisuel public. Et c'est un peu dommage. Croyez qu'on le regrette bien. Le CSA, On les a rencontrés. On a aussi rencontré la présidente de la Commission des affaires européennes à l'Assemblée nationale. Donc, on a bon espoir que nos propositions vont avancer. Mais on trouve que c'est un peu lent.
Est-ce que, voilà, pour avoir connu les salles de rédaction, il y a quelque chose qu'on dit dans les salles de rédaction, c'est l'Europe, ça intéresse pas les gens. Là, on est sur la question de la poule et de l'œuf.
C'est faux.
Nora Hamadi, qu'est-ce que vous répondez à ça?
Non, mais ça dépend de comment on fait de l'Europe. C'est-à-dire que si on fait de l'Europe de manière chiante et institutionnelle, de facto, ça n'intéresse personne. Mais au même titre, en fait, que le PLF ou le PLFSS, c'est-à-dire la programmation de loi de finances de la sécurité sociale, c'est chiant. Pardon de le dire. Le travail parlementaire, c'est chiant. Mais pourquoi est-ce qu'on arrive en fait à rendre intelligible le travail parlementaire français? On ne serait pas capable de le faire pour le travail parlementaire européen. Bon, bah en fait, à un moment, il faut juste sortir d'une forme de paresse qui voudrait que c'est chiant, qu'en fait c'est compliqué. Non, il suffit juste en fait de réussir à le traiter de manière journalistique et de chercher les bons angles. Là-dedans, pardon, mais il y a une forme aussi de paresse de la part de certains confrères qui considèrent qu'il n'y a pas matière à trouver quelque chose de sympa. Bon, bah écoutez, bah je vous invite à regarder mon émission tous les dimanches. Bizarrement, on arrive à avoir assez de gens derrière leur télévision tous les dimanches soirs à 20h05. Et j'ajouterais, près de 3 Français sur 4 dans un sondage qui a été publié l'année dernière demandent à être mieux informés sur les questions européennes. C'est aussi une question démocratique. À l'heure où, et on le disait Véronique, sur la Pologne, sur la Hongrie, on parle de démocratie libérale, on parle de droits humains qui sont bafoués, etc. La nécessité en fait d'informer, elle est aussi liée en fait à cette nécessité en fait d'avoir plus de travailler à cet espace démocratique qui est en train de se construire. Et on voit bien qu'en fait on se jauge toujours, on regarde toujours nos voisins. Et c'est important en fait d'avoir cette conversation.
Merci beaucoup Nora Hamadi. Vous voyez l'énergie qui est là, vous la retrouvez le dimanche sur Arte à 20h05 pardon, et c'est pas chiant comme elle dit. Merci beaucoup Véronique Auger d'avoir été avec nous. Vous êtes présidente de l'Association des journalistes européens. On suivra évidemment ce dossier ici sur Europe 1, qui porte bien son nom.
Merci.
Dans un instant, un anniversaire. Les 75 ans, j'essaie de le calculer en siècle, trois quarts de siècle, les 75 ans du magazine Elle, très en forme, les ventes montent. Nous serons avec la directrice de la rédaction, Erin Doherty, et l'une des rédactrices en chef qu'on voit le soir dans C'est à vous, c'est Marion Ruggeri. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Marion Ruggeri.
Bonjour.
Il faut mettre le masque ici. On vous voit tous les soirs dans C'est à vous, non masqué sur France 5, aux côtés d'Anne-Elisabeth Lemoine. Vous êtes d'abord journaliste de presse écrite à l'hebdomadaire Elle. Face à vous, Erin Doherty.
Bonjour.
Enfin, face à vous, vous travaillez ensemble. Oui. Vous êtes face à vous dans le studio à cause du...
C'est ma bosse.
Voilà. Vous êtes la directrice de la rédaction du Elle, on dit le Elle à Paris, depuis janvier 2017. Engagée à ce poste par Constance Benquet. Exactement. Qui est la patronne d'Europe,
ouais,
maintenant. Elle, à 75 ans, j'ai fait le calcul, c'est en gros votre âge à toutes les deux. 75 ans et en pleine forme.
Individuellement.
C'est l'un des rares titres en progression sur l'année 2020. Avant de parler de business, quels souvenirs vous avez de ce magazine? Vous avez commencé à lire Elle à quel âge, Marion Ruggeri?
J'ai commencé à le lire à l'adolescence parce que j'avais ma meilleure amie, qui est toujours ma meilleure amie, qui faisait une collection des couvertures et notamment des photos de top modèles. C'était l'époque des grands top modèles. Et à l'époque, les filles à l'école, voilà, certaines en tous les cas, faisaient des classeurs avec chaque classeur. Il y en avait un, c'était Stéphanie Seymour, l'autre, Elle Macpherson, etc. etc.
La même question pour vous, Erin Doherty.
Ben moi, c'est assez similaire. J'avais 15 ans, je crois, et c'était les premières couvertures de Gilles Ben Simon, avec Yasmine Parvanet, avec Elle Macpherson. Et moi, je les collectionnais aussi, mais je ne gardais pas juste les couvertures. Je me faisais des tours de Elle dans ma chambre. Donc, au grand dam de mes parents qui n'en pouvaient plus, j'ai fini par les jeter au fur et à mesure des déménagements. Mais bon.
C'était pas vos mamans qui le lisaient d'abord?
Alors, moi, j'ai une maman canadienne, anglophone. Donc, non, pas du tout. Mais j'ai découvert ça par moi-même. Et,
Puisque vous parlez de l'anglophonie, on doit dire que le Elle, on parle du Elle français, mais c'est 46 éditions.
Absolument.
Dans le monde.
Tout
demain,
ouais,
le Elle français à 75 ans, vous sortez un numéro anniversaire avec 7 couvertures différentes. C'est quoi ces couvertures? Est-ce que vous pouvez les détailler?
Oui, 7 couvertures. Donc elles sont... En fait, on a choisi le thème de la transmission, parce que Elle est un journal qui se transmet de génération en génération.
Mais oui, je vous en parle, parce moi, ma maman, on le lisait. Voilà pourquoi je vous en parle.
Et on a choisi de mettre en couverture les stars qui sont des fidèles de Elle, Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Jane Birkin.
Isabelle
Huppert avec sa fille. Voilà, exactement, d'illustrer cette transmission, c'était de les inviter avec leurs fils, filles.
Elle McPherson et
voilà,
son fils,
et
sa
certaines,
fille.
Pour certaines d'entre elles, elles ont fait la couverture aussi. Mm-hmm. Voilà, là, vous avez Leïla Slimani.
Je me l'ai gardée pour la fin, Leïla Slimani. Et alors, ce qui m'a vraiment frappé, on voit que c'est une famille moderne.
Jane Birkin,
Charlotte Gainsbourg, ouais. Jane Birkin et Lou Doyon. Et on voit que c'est moderne puisque c'est trois noms de famille différents.
Exactement.
Donc, ça dit quelque chose.
Ça dit quelque chose. Et tout ça est réuni sur la couverture de Elle. Chacune individuellement a fait la couverture de Elle. Et on les a fait parler de la transmission. L'interview est extrêmement touchante entre les trois. Elle parle aussi de leur sœur, Kate Berry, qui était photographe, qui a fait elle-même beaucoup de couverture de Elle. Donc c'est très émouvant de les réunir voilà, sur ce numéro-là.
Et puis, ce n'est pas sa maman, mais Christiane Taubira et Leïla Slimani.
Oui, parce qu'en fait, cette idée de la transmission n'est pas que filiale. Et c'était avec Leïla et Christiane, qui chacune aussi ont fait leur couverture, on voulait parler de filiation intellectuelle. Et les unes et les autres, enfin, quand j'ai appelé Leïla Slimani, je lui ai dit « Mais quelle serait la personne qui serait ta mère spirituelle ?» Mais sans hésiter, elle m'a dit Christiane Taubira. Et quand j'ai appelé Christiane Taubira, je lui ai dit, mais si tu devais choisir une... Je la vous vois. Si vous deviez choisir une fille spirituelle, elle m'a dit, mais Leïla Slimani. Donc voilà, on a réuni les deux. Elles étaient ravies. L'interview est de haute volée dans elle, vraiment. Elle parle de la culpabilité des mères absentes, elles sont de l'importance de la frivolité, etc.
L'importance de la frivolité ?
Oui, dans elle, c'est important.
Ah, c'est intéressant de dire cette chose-là, mais parce qu'on a l'impression que ça devient de plus en plus sérieux, de plus en plus politique, plus en plus engagé.
Oui, c'est vrai. Mais elle, en fait, est bicéphale. La ligne éditoriale est bicéphale. Elle a toujours été très, très engagée. Quand Hélène Lazareff a embauché François Giroux, c'était justement pour accompagner tous les combats qui se profilaient dans ce 20e siècle sur l'épopée des femmes. Donc, évidemment, elles avaient en poche leur droit de vote en 1945, mais ensuite, François Giroux exhortait les femmes d'aller voter, ensuite d'aller travailler, parce que c'était leur indépendance. Donc oui, elle, c'est un journal militant engagé, et c'est un journal frivole, avec la mode. La mode, c'est sérieux aussi.
Vous n'y étiez pas, parce que vous savez, toutes les deux, à quand remonte la première mannequin noire en couverture ?
Oh la vache.
Je l'ai cherché.
Non, la date.
1975.
Ouais,
mais c'est vrai qu'après, il y en a eu très peu. Et il y a peu de femmes noires en couverture du Elle.
Alors la diversité.
Sauf quand elles sont très célèbres, m'a-t-on fait remarquer.
Voilà,
mais les mannequins anonymes sont blancs.
Alors, la diversité, c'est une vraie question.
Je sais, vous en parlez justement.
Voilà, on en parle. Je pense que c'est une question extrêmement importante dans les médias, dans leur généralité. Oui, c'est quelque chose. On a fait notre examen de conscience à un moment donné. Et je pense que là, si vous prenez l'année qui vient de s'écouler, la diversité, on est plutôt bien placé maintenant.
Vous parlez de diversité, je vais parler du livre dans la deuxième partie de cet entretien. Il y a un chapitre consacré dans un très beau livre à l'inclusivité. Qu'est-ce que vous entendez dans ce terme, l'inclusivité ? Je veux dire, moi, ce qui me frappe, vous dites que c'est un magazine bicéphale, et vous avez absolument raison. Comme disait Bruno Gassiot, ça commence par un édito féministe et ça termine par les recettes de cuisine.
C'était Jamel Debbouze.
Le premier qui l'a dit, c'est Bruno Gassiot. C'était dans un édito ici où il s'était fait allumer par le L. Il a dit le L. Ce magazine qui commence par un édito féministe et qui termine par les recettes de cuisine. César. Et alors, il y a une sorte de schizophrénie du L. Vous défendez par exemple la mannequin Taraline et ses formes généreuses. Ouais. C'était en 2010. Il a fallu attendre 65 ans. Et quand on lit votre journal, on tombe sur des papiers qui vous expliquent qu'il faut combattre la dictature des régimes, l'obsession des kilos. Et quand on tourne les pages mode, les filles, elles font 1m80 et elles rentrent dans du 36.
Mais pas que.
Non.
Non, mais c'est ce que vous me dites là.
Vous le savez bien,
l'histoire de la vie. Alors, pour ce qui est de la diversité, toutes les rédactions.
Sur la diversité, on est d'accord.
Y compris, je pense, celle d'Europe 1. Il y a un moment, on a tous été confrontés à cette question.
Sur la diversité.
Voilà, donc on a tous essayé de prendre ça à bras le corps.
Mon sujet,
sur l'inclusivité, c'est-à-dire avoir différents modèles, avoir différentes sortes de corps, de se représenter comme nous sommes dans la vie. Les journalistes de Elle ne font pas 1m80, ne pèsent pas 45 kilos, comme vous pouvez le constater aujourd'hui même en me regardant. Donc je veux dire, nous sommes à l'image de la lectrice. Et c'est vrai qu'on a été pendant longtemps contrainte, corsetée par une image modèle, de top modèle, et que petit à petit, on a eu aussi envie de femmes qui nous ressemblent, qui ressemblent aux lectrices, qui ressemblent aux journalistes de Elle.
On est tous d'accord, c'est pourquoi ce fut-il si difficile d'en sortir ?
Moi, je considère que ça n'a pas été difficile.
J'ai pas l'impression que c'était difficile. J'ai l'impression que ça s'est fait naturellement en miroir avec ce qui s'est passé aussi dans la société, avec ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, Philippe. aussi. Et donc, ce n'est pas une difficulté, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement et qui se fait de plus en plus.
Les 75 ans du L, on en parle avec Marion Ruggieri, avec Erin Doherty. On n'a pas encore parlé de ces très beaux livres chez Grunt, ce sera juste après ça.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Non, tu sais, je suis bon. Allô, j'étais en train de plaisanter sur l'historique ici d'Europe 1. Je suis à l'antenne, nous parlons du Elle, les 75 ans du magazine Elle, avec Erin Doherty, directrice de la rédaction et la une des rédac-chefs et éditorialistes Marion Ruggieri. Il y a ce beau livre qui vient de sortir. Comment vous avez travaillé dans l'édito que vous signez, Erin Doherty? Il faut que je retrouve la phrase que vous dites. Vous citez Yves Saint-Laurent qui dit « Ce qui est important dans une robe, c'est la femme qui le porte. » Est-ce que c'est la même chose d'un magazine? Est-ce que l'important dans un magazine, c'est sa lectrice?
Alors, on a coutume de dire à elle que la vraie patronne, c'est la lectrice. Donc on est obsédé par elle. À chaque conférence de rédaction, on se dit « Oui, mais comment la lectrice va percevoir ça ?» Donc oui, bien sûr, j'ai plusieurs patrons, Claire Léos, ouais. Denis Oliven, mais j'ai aussi, et là, celle que j'écoute le plus, pardon à mes chers chefs, mais c'est la lectrice.
Comment vous avez travaillé pour ce magazine? Vous avez balayé toutes les photos, c'est un truc de dingue.
On s'est plongé dans les archives de Elle qui sont pléthoriques. Et on a fait décennie par décennie. Et on se rend compte que décennie par décennie se dessine à travers la mode l'histoire des femmes. Donc on était là quand Dior corsetait un petit peu trop la taille des femmes, mais c'était une silhouette qui est devenue historique. On est là quand Jean-Paul Gaultier aborde la théorie du genre, car c'est le premier créateur à avoir abordé ça.
La jupe pour homme.
À la jupe pour homme, exactement, à faire défiler des personnes transgenres sur les défilés. Donc lui, extrêmement moderne pour son époque.
Et vous n'avez pas éludé les gens qui n'étaient pas très modernes. Page 42-43, on est dans les années 50, c'est « Vive les arts ménagers ».
Voilà.
Il y a même la une du L, il y a quand même une femme qui est en tablier et qui tient le fer à repasser, sur la planche à repasser.
C'est vous dire quel point elle est aux prises avec le quotidien des femmes. C'est-à-dire que oui, entre la ménagère, la cocotte ménagère du début de Elle, et celle d'aujourd'hui où on parle d'empowerment, où on lui dit de prendre sa place dans la société, il s'est passé 75 ans.
Comment sont les ventes ?
Bonne, alors on touche du bois. Il n'y a pas beaucoup de bois dans votre studio.
Non, mais il y a des condamnés.
Voilà, il y a des condamnés. Non, les ventes sont bonnes et on est vraiment extrêmement contente.
Alors, je vais le dire, parce que c'est assez rare pour être signalé. Vous êtes en progression sur 2020. Ouais. Il y a peu de journaux papier qui peuvent se vanter de ce score. Quelle est la place des news dans votre stratégie? Et là, je me tourne vers vous, Marion Ruggieri.
Des news, c'est-à-dire de l'info, de l'actu?
Il y a de plus en plus d'infos, même de plus en plus de politique. Il y a, par exemple, dans le numéro du 27 novembre, il y avait deux interviews de ministres, plus un papier sur Trump.
Absolument.
Absolument. Ouais. Bah oui, c'est parce que là aussi une évolution de société où on est de plus en plus en prise avec l'actualité, tous autant que nous sommes nourris de ça, peut-être parfois même trop. Et donc là encore, le journal reflète tout ce qui se passe en ce moment. Et c'est une période tellement riche, tellement surréaliste, mais aussi tellement passionnante, où il se passe tellement de choses, notamment pour les femmes, où il y a cette vague de féminisme qu'on n'avait pas vue depuis les années 70, où on se retrouve au cœur de tout ça. Et je vais être honnête avec vous, moi ça fait 20 ans que je travaille à Elle, on ne lâche rien. C'est-à-dire qu'on est là, on écoute tout, y compris les critiques, et on essaie sans cesse de se remettre en cause, sans cesse de se dire comment on peut faire mieux, penser autrement, penser plus large, et voilà. Et donc le journal évolue aussi avec ça, et je pense que c'est pour ça qu'on a aussi quelques résultats, je l'espère en tout cas.
Ça marche bien, vous êtes heureuse?
Très 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 heureuse, oui.
Il y aura quoi dans le numéro de demain, spécial 75 ans, d'un mot?
Alors, cette couverture, collector, allez tous les acheter.
Toutes les interviews qui correspondent aux couvertures et qui sont vraiment absolument extraordinaires. Vous parliez de celle de Leïla Slimani et Christiane Taubira signée Dorothée Werner, qui est formidable. Les actrices avec qui on a ce rapport depuis tant d'années. Les mannequins, les grands top modèles emblématiques dont on parlait en début d'émission, qui sont là avec leurs enfants. Voilà.
Ça sera demain le L, et puis ce livre, L, 75 ans de photos de mode, c'est chez Grün, c'est signé Sylvia Jorif, Culture Média continue. Merci d'avoir été avec
merci
nous, Marion Ruggieri.
Merci pour votre gentillesse.
Bon anniversaire, Culture Média continue, disais-je, le rappel des titres de 10h, à la suite de quoi Eva Rock viendra pour son zapping du lendemain avec une série télé très originale, quasiment sans images, et Bertrand Chamerois pour son écran de veille 100% Esprit de Noël, enfin mauvais esprit, vous connaissez Bertrand Chamerois. Notre invité, c'est la youtubeuse Natou, et là là, ça va vous plaire. Elle s'amuse une nouvelle fois des codes de la presse féminine et ça s'appelle Icône avec deux N. Et puis dans les indispensables, une rencontre étonnante entre le jeu vidéo le plus populaire du monde et les Châteaux de la Loire et un humoriste qui parle d'art. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.